Bonjour. Je vais vous accueillir en bonne et due forme. Tout le monde a son café, tout le monde a... Ouais, mais vous n'hésitez pas pendant la conférence. On veut que ce soit convivial, donc vous pouvez vous lever pour commander, il n'y a pas de problème. Je vous remercie d'être venu en si grand nombre à cette quatrième et dernière conférence de la saison. Je vais vous présenter tout de suite notre conférencier de ce soir et puis après, je vais dire quelques mots sur nos intentions pour l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir Daniel Castillo Durante, qui est chercheur, essayiste et romancier québécois d'origine argentine. Il est membre de la Société royale du Canada et professeur au département de français de l'Université d'Ottawa. Il a fait paraître près d'une quinzaine d'ouvrages, dont les romans « Un café dans le sud »,« La passion des nomades »,« Les foires du Pacifique »,« Ce feu si lent de l'exil » et « Le silence obscène des miroirs » sont plus récents, dont le titre est aussi celui de la conférence d'aujourd'hui. Il a aussi publié des essais, j'en ai noté quelques-uns, « Littérature, culture et société en Amérique latine »,« Les dépotoirs de la postmodernité »,« Les dépouilles de l'altérité »,« Sade ou l'ombre des lumières », et Ernesto Sabato, « La littérature et les abattoirs de la modernité ». Ses champs d'intérêt en recherche concernent, entre autres choses, les théories littéraires, la littérature française, les littératures latino-américaines et les pratiques culturelles francophones et latino-américaines contemporaines. Il a remporté de nombreux prix littéraires pour son œuvre romanesque et a été finaliste à de nombreuses reprises pour des prix en lien avec ses romans et ses essais, dont le plus récent est sa mise en nomination pour le prix des lecteurs Radio-Canada 2012 pour le roman « Le silence obscène des miroirs ». Sa conférence viendra clore la série que nous avons entamée en avril avec la conférence de Patrick Imbert, puis poursuivie avec celle de Lucie Joubert, qui est ici présente, et celle de Kazereka Kawairei. Et au nom de Salon Double, de toute son équipe à Montréal, à Québec, ici à Ottawa, au nom de Brigitte Fontil qui est cachée derrière moi, et en mon nom à moi, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui ont assisté à l'une ou l'autre de ces conférences, ou encore à toutes les conférences, et de nous avoir convaincus de la pertinence du type d'événement comme aujourd'hui. Donc, tenir une conférence à l'extérieur des murs de l'université pour amener la littérature dans le vrai monde et discuter sans artifice, sans contrainte, de littérature contemporaine autour d'un breuvage chaud ou froid et d'un café et gâteau, etc. Donc, on vous annonce sans grande surprise que la série va être de retour l'année prochaine. On est déjà en train de réfléchir à la forme que ça prendra. Il y aura certainement des conférences, mais on vous réserve aussi peut-être quelques surprises formelles, c'est-à-dire. Donc, on vous tiendra au courant par les médias sociaux et les formes plus traditionnelles, mais on est en train de préparer des choses éclatantes. Et dans l'attente, je vous invite à consulter le site de Salon Double à l'adresse salondouble.contemporain.info. Donc là-dessus, vous pourrez retrouver en balado-diffusion les trois conférences qui ont eu lieu précédemment et plus tard cette semaine, on mettra celle de M. Durante en ligne aussi. Vous pouvez réécouter, commenter, etc. Il y a aussi plusieurs textes d'écrivains, de professeurs, de chargés de cours, de doctorants, de gens à la maîtrise en études littéraires sur la littérature contemporaine. Et on vous invite aussi, si vous êtes intéressé, à participer à cette élaboration d'un nouveau discours critique. Bien, soumettre des lectures d'œuvres de la manière qui vous plaît. Donc ça se passe à l'adresse salondouble.contemporain.info. Mais pour l'heure, je vais céder la parole à notre conférencier de ce soir. Et puis, sa conférence sera suivie d'une période de discussion dans laquelle, on l'espère, vous allez tous participer, ne pas hésiter surtout. On fera circuler le micro. Bon, c'est qu'on enregistre la conférence, comme je le disais tout à l'heure, donc il n'y a pas d'amplification de la voix. Vous n'aurez pas à vous entendre parler. Mais nous, on aura la trace numérique de votre passage ici. Et puis, ça sera diffusé sur le site web.
Allô, allô. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Non, hein? On me dit que non. Ah, c'est pour le... Oui, d'accord, c'est vrai. Bon, voilà. C'est un micro un peu obscène, lui aussi, parce qu'il cache des choses, mais voilà. Alors, bah, écoutez, bonjour. Merci à toutes et à tous de vous être déplacés dans cette belle journée ensoleillée, un peu fraîche, mais belle, lumineuse. Je voudrais tout d'abord remercier Pierre-Luc Landry et Brigitte, à mes côtés, de leur accueil chaleureux, de l'invitation et puis de ce beau travail qu'ils font avec toute l'équipe. Il y a Catherine, il y a également donc, cette, la personne que je ne connais pas qui a fait cette belle affiche-là.
Andréane Gay.
Donc il y a quand même derrière une belle équipe et vous êtes en train de faire un travail, à mon avis, utile et tout à fait digne d'éloge. Donc d'amener en dehors des murs de l'université la chose littéraire, les enjeux, les discussions, où il peut y avoir quand même une vie à partir d'une animation culturelle qui échappe un petit peu au martèlement des médias qui nous abrutissent un peu à force de se répéter. S'il y a un lieu où, je crois, on peut se précipiter dans une certaine lenteur, une lenteur de, sinon de réflexion, du moins de divagation, c'est bien l'espace littéraire. Donc un très gros merci. Je tiens également à remercier, the last but not the least, mes collègues qui sont là ce soir. Donc Lucie Joubert, également Christian Mila, directeur du département de français de l'Université d'Ottawa, mais non seulement, et en dehors de ça, surtout lecteur, je dirais, ô combien lucide, qui a toujours eu la générosité de me lire et me faire des commentaires dont mes romans ont bénéficié. Je salue également la présence de Geneviève. Merci Geneviève d'être là. Et je remercie toutes les personnes que je connais, et elles sont nombreuses ici, toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, font beaucoup également pour la diffusion de notre vie francophone culturelle à Ottawa. Et j'aimerais, voilà, pour terminer, un petit peu dédier en quelque sorte cette présentation sur ce concept d'obscénité tel que se dégage de mon dernier livre, le dédier, je dirais, à tous ces étudiants, toutes ces étudiantes qui me suivent et qui, avec beaucoup d'audace, ouvrent des nouvelles voies autant à la fiction qu'à la recherche. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu suivre toutes les conférences du cycle. Je m'en veux, mais la raison en est que d'habitude, le lundi, je dois rentrer donc de Montréal. Et la seule conférence à laquelle j'ai pu assister, c'est celle de Lucie, que j'ai suivie avec beaucoup de profit. Mais j'espère que l'année prochaine, le jour choisi sera peut-être pas un lundi. Aujourd'hui, il a fallu que je cavale comme un fou pour être à l'heure. Alors, je ne voulais surtout pas être un homme en retard comme le personnage de mon dernier roman. N'attendez pas de moi ce soir une conférence académique. On est dans un lieu qui n'est pas un lieu universitaire, c'est un lieu en dehors des murs de l'université. Cela a ses avantages. Même si j'aime beaucoup l'université, j'aime beaucoup le métier que je fais depuis des années, mais j'aime aussi sortir des milieux universitaires parce que ça permet, au fait, une parole vive, peut-être parfois moins menacée par les paradigmes qui sont toujours présents et qu'il faut respecter au niveau de la recherche. Je n'ai rien contre les paradigmes, bien que de temps en temps, j'aime bien quand même brasser un peu la cage et un peu les secouer. Donc aujourd'hui, ça va être plutôt une sorte de, je dirais, une sorte de présentation sur deux ou trois enjeux qui se dégagent, à mon avis, de la fiction que je fais modestement, et notamment du dernier roman, Le silence obscène des miroirs, que Pierre-Luc a eu la gentillesse donc de mentionner tout à l'heure. Donc je vais vous parler un peu d'obscénité, quel sens accorder à ce mot aujourd'hui, comment le rattacher à l'espace littéraire et en quoi il nous touche de près, nous ici qui vivons en Amérique et en Amérique du Nord, et particulièrement également à tous ceux et celles, et ici je pense que vous me suivez sur ce terrain, qui s'intéresse aussi au dialogue avec les autres cultures, et notamment les cultures des Amériques. D'habitude, le concept d'obscène, nous le savons, est très rattaché à une représentation vulgaire, choquante, d'un certain réel. C'est un terme qui souvent va être appliqué lorsqu'il est question, par exemple, de pornographie. Et là, Pascal, je dis pornographie et je vois une cuvette, une salle de bain. Est-ce qu'on pourrait fermer la porte juste là pour... juste pour... Voilà, merci Pascal. Donc, d'habitude, le concept d'obscénité est donc rattaché à une forme de pratique qui choque, disons... le bourgeois qui choque les valeurs de la société, Je crois que pour ce qui est de l'obscénité dont il est question dans mon roman, ça va, tout en tenant compte de cet aspect-là, vers un autre aspect qui me semble intéressant, car après tout, la première acception d'obscène, d'obscénité, telle que je viens de la décrire, elle peut aussi donc gagner à être en synonyme avec justement ça, vulgaire, ordinaire, trivial, choquant. Non, la deuxième acception que je vous invite à considérer irait plutôt dans le sens de son rapport à la représentation. C'est-à-dire, dans l'obscénité, il y a le fait, me semble-t-il, de forcer un certain réel. Par exemple, lorsqu'on nous parle de pornographie, sans être un spécialiste en la matière, je m'intéresse comme vous tous, vous toutes, à ce phénomène qui parcourt la colonne vertébrale de la société dans laquelle nous vivons. Et j'observe que cette pornographie, elle passe toujours, je regarde ici Nathalie qui a travaillé la question, elle passe toujours donc par une représentation à bien des égards extrêmement topique, extrêmement stéréotypée, à tel point que cela souvent finit par soit écœurer, soit fatiguer. Mais par contre, le phénomène de l'obscénité qui m'intéresse et que on va voir se produire dans le silence obscène des miroirs, c'est le phénomène qui produit cette représentation, c'est-à-dire ce phénomène qui consiste à tout prix à vouloir en quelque sorte faire accoucher un phénomène d'une image déjà là. Donc, dans le cadre, mettons, de la représentation pornographique, donc, et on le voit même avec la publicité qui va vers des modèles de plus en plus jeunes, ce qu'on appelait la sexualisation donc du produit marchand, on va de plus en plus vers le fait de, en quelque sorte, obliger le réel à produire un certain type de représentation. Donc, par exemple, dès qu'il est question du phénomène relation avec la prostitution, eh ben, la prostitution donc, signifie une femme dégradée, une femme souvent droguée, une femme souvent abusée à l'origine, exploitée avec des macros. Donc, impossible d'imaginer une prostitution heureuse. Impossible d'imaginer un autre réel qui pourrait aussi être représenté. Nous savez, avons-nous eu droit dans les médias à une prostituée qui serait mère de famille et qui, après avoir terminé son travail, aurait le plaisir de parler de l'éducation de sa fille et du bonheur de passer quelques semaines de vacances grâce à son travail dans les Caraïbes. Donc, l'obscénité dont je parle, c'est une obscénité qui m'est venue tout d'abord à partir de mes travaux, et je parlerai ici surtout de mes fictions, au niveau du stéréotype. Vous savez, une des choses qui me semblait toujours problématique, c'était en littérature, c'est par exemple, lorsque j'allais vers le cinéma hollywoodien, de toujours voir que lorsqu'il était question de l'Amérique latine, c'était toujours une Amérique latine frelatée, une Amérique latine prête à la consommation, c'est-à-dire prête à la consommation en fonction d'un marché. Quel marché ? Le marché donc états-unien, et puis le marché qu'on peut appeler de la mondialisation at large, où il faut donc que les Mexicains aient le visage basané, qu'ils soient, a lazy boy, hein, a lazy boy, just ce qu'il faut pour que l'image du Mexicain passe. Mais un Mexicain qui aurait les yeux bleus, qui serait blond, qui travaillerait de 5h du matin à 8h du soir, cela ne passerait pas dans le cinéma de ces années-là. Alors à partir de là, je me suis penché aussi sur le concept même d'identité. Vous savez, je viens d'un pays, je suis né dans un pays, je viens du Sud, donc pour les personnes qui m'ont lu, ont bien compris que la plupart de mes personnages ont toujours un rapport entre le Nord et le Sud, des personnages qui souvent d'ailleurs perdent le Nord à force de vouloir chercher un Sud qui demeure, à bien des égards, parfois obscène, mais dans le sens que j'essaie de travailler ici. Alors, né en Argentine, je me suis posé plusieurs fois la question de ce concept d'argentinité. En espagnol, on appelle ça la argentinidad. Donc, on a beaucoup bâti dans les Amériques dites latines. Je n'ai pas le temps ici de développer pourquoi l'Amérique on l'appelle latine et pas Amérique, par exemple, ibéro-amérique, comme disent les Espagnols. Eh bien, dans l'Amérique, en Amérique latine, lorsque je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est que d'être argentin, il a fallu que j'aille vers l'obscénité à certains égards. Pourquoi ? Parce que ce concept d'argentin, à bien des égards, fonctionne. Et j'entre déjà dans mon dernier roman comme un miroir. C'est-à-dire, le sujet argentin, il va se voir comme un sujet d'origine européenne. Il va donc adhérer aux valeurs européennes. Il va même tout de suite se référer à la ville capitale, Buenos Aires, qui est la capitale de l'Argentine, comme une ville qui ressemble à une ville européenne. Vous savez, lorsque vous venez chez nous, à Buenos Aires, je peux vous amener dans des coins et vous me direz, ça c'est Barcelone, ça c'est Paris, ça c'est Madrid. Alors j'ai essayé donc de comprendre le rapport entre l'identité, le miroir. Donc pourquoi un sujet a-t-il besoin de se regarder dans une ville comme Buenos Aires pour être reconnu comme argentin ? Alors bien sûr, je ne vais pas vous ennuyer ici avec une longue recherche, mais sachez que tout cela a des explications historiques. À l'origine, on peut dire, il y a un personnage qui s'appelle Sarmiento, qui est un intellectuel qui va devenir président de l'Argentine au XIXe siècle. Aux alentours de 1850, Sarmiento, alors qu'il était en exil à Santiago du Chili, donc le pays voisin, le Chili, il va écrire un livre qui s'appelle « Civilisation ou barbarie ?»« Civilisation ou barbarie ?» Dans ce livre clé de la modernité argentine, on assiste à deux types de représentations. D'un côté, il y a la représentation de l'autre, c'est-à-dire l'Indien, c'est-à-dire celui qui a la peau cuivré. Et de l'autre côté, il y a l'Argentin, le blanc. Alors, Sarmiento, dans un tour de force, vous voyez, dans un tour de force qu'aujourd'hui j'appellerais relevant de l'obscénité, va décrire l'Argentin autochtone, aborigène, puisqu'il est né sur place. Il vient de là, il vient soit de la Patagonie, soit du Nord, et il a occupé la Pampa. La Pampa, c'est cette plaine qui, à perte de vue, nourrit de blé, de maïs et de soja l'Argentine et le monde. Ah, vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Argentine, on l'appelait le grenier de l'Europe, alors que l'Europe se déchirait et il y avait énormément de famine. Alors, lui, Sarmiento, dans ce livre « Civilisation ou barbarie », il va décrire le sujet autochtone, et je ne l'invente pas, il va le décrire comme un bédouin. Bédouin. Il va le nommer bédouino. Il va dire, c'est un sujet qui n'a pas de chez soi, c'est un sujet qui passe sur la terre, qui est un nomade, et qui n'est pas né sur place. Il va le présenter comme s'il venait d'ailleurs, comme une sorte de gitan, comme une sorte d'extraterrestre qui serait arrivé par hasard tout à coup et qui serait tombé dans le nord, sur la Pampa et dans cet énorme espace argentin. Enfin, énorme, tout est relatif si on le compare avec le Canada, deuxième pays en surface dans le monde, presque 10 millions de kilomètres carrés. Mais sachez quand même que l'Argentine, elle est exploitable de A à Z. Elle n'a pas, comme nous, dans notre beau pays, beaucoup d'espace où l'hiver, parfois, nous chasse. Alors, je me suis posé la question, pourquoi aura-t-il fallu étouffer dans l'œuf l'altérité radicale représentée par l'autochtone, qui, lui, d'ailleurs,
dans ces espaces de l'Amérique du Sud, a donné des hautes intensités au niveau de civilisation et des cultures. Ai-je besoin ici, peut-être lui, pour certains d'entre vous, de rappeler que c'est en Amérique du Sud qu'on trouve des traces de civilisation majeure. Il suffit d'aller, par exemple, à Cusco, Corco, qui est donc en quechua la langue des Incas, qui se parle encore sur le haut plateau andin, qui veut dire le nombril du monde. Donc, nous avons affaire, en plus, à des hauts lieux de culture. Vous savez, mon père, parmi les qualités qu'il avait, bien que je sais que dans les romans, souvent on me dit « Mais si c'est ça ton père, mon Dieu, tu en fais des portraits épouvantables. » C'est un personnage de roman. C'est un personnage de roman. Mon père, parmi les qualités qu'il avait, c'est qu'il collectionnait des huacos, il collectionnait des céramiques. Donc très très jeune, des céramiques pré-Inca, des céramiques Inca. Donc très jeune, j'ai été, Dieu merci, élevé à la culture autre. J'ai eu cette chance. J'ai même, chose que personne ne sait ici, mais il me plaît de temps en temps de révéler quelques petits secrets culturels, si j'ose dire, j'ai étudié le quechua. Je peux vous dire que parmi les registres là, de civilisation qu'on peut trouver dans les Amériques dites latines, il y en a qui pourraient nous apprendre tellement aujourd'hui sur le rapport à la terre, sur le rapport à l'équilibre, sur le rapport à comment mieux comprendre une certaine harmonie au niveau du progrès. Eh bien, moi, qui, grâce également à mon père, qui était un véritable nomade, j'avais connu beaucoup de pays, en Amérique latine notamment, j'avais vécu au Pérou, etc., je me suis posé la question, comment fonctionne alors ce concept d'identité? Et pour le cas de l'Argentine, je suis arrivé à la conclusion, enfin conclusion, c'est un mot un peu trop lourd, disons à l'hypothèse, que comme dans un miroir, le teint, T-A-I-N, c'est-à-dire cet élément obscur qui permet le phénomène du reflet, le teint, c'était l'Indien. C'est-à-dire cet élément d'ailleurs qui allait dans le sens de l'obscurité, hein, la peau cuivrée, là. Le véritable teint de l'identité argentine, ça s'appelle l'Indien. C'est-à-dire, le blanc argentin ne réfléchit son identité que dans la mesure où, en arrière, il y a cet élément qui a été noirci à souhait, qui est devenu donc une sorte de noyau dur d'amalgame, le teint, grâce auquel le reflet de l'identité, l'argentinidad, se projette. Et oui, la modernité argentine, il suffirait de faire un petit voyage à Buenos Aires, a été bâtie à gros coups d'obscénité, si vous acceptez, d'un point de vue purement, comme on dit en langage académique, heuristique, si vous acceptez donc cette hypothèse. Donc l'espace même de l'argentinité, la modernité, l'espace de la modernité argentine, est un espace donc qui se crée en trompe-l'œil. Donc le porteño, donc celui qui habite près du port de Buenos Aires, donc celui qui va toujours dire « mes parents viennent d'ailleurs », soit de l'Espagne, soit de l'Italie, soit de la France, soit de l'Allemagne, etc., etc. Donc, tout cela vont en quelque sorte bâtir de génération en génération une sorte, je dirais, de reflet obscène dans le contexte de cette hypothèse, où il y aurait, pour ainsi dire, un phénomène qui consiste donc à taire la partie obscure, la partie non grata, la partie qui doit être cachée, de façon à ce que la lumière, l'argent de l'Argentine, hein, le argentum, hein, c'est pour ça que parfois il m'était arrivé dans le passé, dans certains de mes essais, d'écrire Argentine, j'écrivais argent, trait d'union, INN. Vous voyez, in, non, c'est-à-dire l'auberge de l'argent. Alors, dans quelle mesure, donc, c'est la question que pose ce roman, dans quelle mesure, à l'aide de cet exemple, toute construction identitaire n'obéit pas un peu à ce mécanisme de teint, à ce mécanisme où l'on cache pour développer un autre aspect. Alors, C'est ici donc que j'en viens au silence obscène des miroirs. Cela explique pourquoi mon personnage, qui s'appelle Jean-Marie Castel, qui est photographe, lorsqu'il quitte le Canada, lorsqu'il quitte son travail au jour le jour de photographe, car il fait encore partie de ces êtres qui croient qu'on peut capter des intensités au niveau des images. Et je crois que tout l'art tourne autour de cette problématique-là. Hein ? L'intensité, il faut aller la chercher, là où elle est. Et parfois, un certain nomadisme y aide. Alors, mon personnage, lui, il a quitté les lieux qu'il connaît, il s'est dépaysé, il a donc quitté le pays connu pour aller vers l'inconnu. Parce qu'il est né ici, il est né de ce côté-ci des Amériques. Et il s'en va dans le sud. Dans mes romans, il y a toujours un dépatriement. Il y a toujours un changement, un besoin de briser avec le connu pour aller vers l'inconnu, de briser avec le point de repère pour aller peut-être vers un point de non-repère, hein, coupé d'avec le pays du père, parce que malgré tout, c'est le père, il y a aussi une symbolique du père. Le père, ce n'est pas seulement le père biologique, c'est aussi le lieu où le sujet se constitue, construit son rapport à ce reflet que j'appelle obscène de l'identité. Alors, il arrive dans un pays qui s'appelle l'Argentine et il va, à un moment donné, alors qu'il loue une petite maison à flanc de colline, qu'il est entre ciel et terre, qu'il est suspendu face à une nature forte, volcanique, il va sortir de chez lui et il va être l'objet d'une agression. Je vais peut-être à un moment donné lire un passage. Et il va perdre son passeport canadien. Et voilà, Pierre-Luc, la perte du passeport canadien, c'est comme la perte du miroir. Il perd donc ce document grâce auquel, lorsqu'il est en excursion, lorsqu'il est à l'étranger, un reflet lui permet quand même de dire « Non, j'ai ça qui permet de dire qui je suis. » Vous savez, globalement, la représentation du réel, c'est tout l'enjeu. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Christian, plus tard... participera, Geneviève, Lucie, vous tous. Mais moi, je dirais un enjeu commun quand même par rapport au littéraire, c'est comment peut-on représenter le réel ? Et comment peut-on le représenter de nos jours ? Parce que la question se pose de plus en plus, difficilement, me semble-t-il. C'est une hypothèse que j'aimais. Je ne sais pas, moi... Il y a tellement de périodes que j'aime dans la littérature, surtout lorsque, mettons, on reste en francophonie. Le XVIIIe siècle m'a tellement passionné. J'avais failli d'ailleurs faire mon dernier travail de recherche là-dessus. Mettons, je pense à des écrivains comme Sade. N'en déplaise à ceux qui ne l'aiment pas. Sade, et en dépit de cette vie hautement difficile qu'il a eu, mais très courageuse, il avait encore la liberté de représenter ce qui n'avait pas été encore représenté, pas comme il le fait. Aujourd'hui, je pose la question, peut-on aller au-delà de ce que Sade a fait ? Parce que l'obscénité est devenue tellement active, elle est devenue tellement industrielle, que les limites de la représentation aujourd'hui sont extrêmement difficile. Hein? Donc, moi un des enjeux qui me passionne beaucoup lorsqu'il est question de commencer un nouveau texte, c'est comment dire ce phénomène sans tomber dans le cliché, sans tomber dans le stéréotype, aller vers ce que j'appelle le côté métatopique, subvertir donc le cliché. Je dis que ça devient de plus en plus difficile parce que nous sommes bombardés par toute une série d'images dans l'obscénité, et je ne dis pas, qu'on s'entende bien, je ne dis pas ici obscénité avec jugement de valeur. C'est un phénomène, il est ce qu'il est. Je ne suis pas ici en train de dire obscène, comme le dirait ma grand-mère, pour disqualifier un phénomène. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, en tant que chercheur, mais je laisse ça de côté aujourd'hui, mais en tant qu'écrivain, jamais, je crois, il faut se permettre de devenir juge de quoi que ce soit. Un écrivain qui devient juge, il n'est plus un écrivain. Donc on observe un phénomène et toute la marge de manœuvre, c'est essayer de le rendre de la façon la plus intense possible, mais sans trahir quand même un certain régime de représentation. Alors, le réel est-il représentable encore de nos jours ? Alors, voici, je dis que dans Le silence obscène des miroirs, ce qui est en jeu comme représentation serait non pas le réel, vous savez, il y a tellement de réels, il y a le réel symbolique, il y a le réel imaginaire, il y a le réel, il y a plusieurs réels. Hein, exemple, lorsqu'on pense à l'image du père, vous savez, c'est une des obsessions de mes personnages. Hein, à bien des égards, le père, peut-on représenter le père ? La mère, peut-on la représenter ? Alors, à bien des égards, on peut dire qu'on a un père imaginaire. On porte en soi plusieurs pères, un père imaginaire, un père symbolique. Eh bien, je crois que dans ce roman, il est question d'un réel que je vais appeler ici spéculaire, parce que je n'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas trouvé mieux, excusez-moi pour ce terme un petit peu pédant, un petit peu académique, si j'ose dire, mais spéculaire dans le sens réel rattaché au miroir. Spéculaire dans le sens de réel attaché à besoin d'avoir un reflet pour fonctionner. Réel, spéculaire, ça veut dire pour moi, dans le, et c'est le roman qui me l'a appris. Je ne pars pas à la base avec un présupposé. Voilà, je vais développer le réel spéculaire. J'ai essayé de comprendre pourquoi ce Jean-Marie Castel n'arrivait pas à entrer en contact avec lui-même. Comme dirait Pessoa, pourquoi il était en dehors de son corps. Il était en vadrouille. Voyez, ce sentiment d'être en vadrouille d'un corps, comme le dit si bien le poète portugais Pessoa, qui a développé tellement de pseudonymes pour essayer de se retrouver, il ne s'est jamais retrouvé. Alcoolique, il est mort alcoolique dans les rues de Lisboa, à Lisbonne. Alors, mon personnage, Jean-Marie Castel, il essaie de comprendre donc, ce qu'il arrive lorsqu'il essaie de prendre en image les autres comme identité. Alors, lui, ce qu'il va faire, c'est finalement se confier à l'œil de la caméra. Mais, vous le verrez, l'œil de la caméra va être figé et c'est là que commence l'obscénité pour lui. Voilà, je ne ferai que 3 citations. J'espère que vous aurez la bonté de ne pas bâiller pendant ces 3 citations. Voici la première. On voyait bien qu'elle ne venait pas du même milieu que les autres. Puis ce visage qui gommait le paysage, y compris les crêtes gorgées de neige du volcan, lui servant de toile de fond. Alors, plutôt que d'utiliser l'interphone tel que préconisé par le propriétaire de la maison, il avait débarré la porte blindée à 12 points d'ancrage pour parler à l'inconnu. « Je suis venu pour que vous me preniez en photo, » dit-elle de but en blanc, d'une voix douce et fluide comme un ruisseau de montagne. Tout coulait naturellement chez elle. Du moins, c'est ce qu'il avait songé à ce moment-là. Pourquoi moi, alors qu'il y a toutes sortes de gens qui se baladent avec un appareil photo à la main ? Il posa sa question sans y croire, juste pour retarder le moment où il faudrait appuyer sur l'obturateur afin que l'image de la fille se concrétise dans sa rétine. « Parce que vous êtes étranger », fut sa réponse brève et lapidaire. Elle se tenait debout sur la terrasse, les bras croisés dans l'attitude de quelqu'un qui garde plus d'un secret dans sa poitrine. « Voulez-vous entrer, vous réchauffer ? Je viens d'allumer la cheminée », suggéra-t-il sans souligner les mots. Elle avait refusé en hochant la tête de droite à gauche, et il comprit que l'image seule de la fille comptait à présent. Alors, son appareil photo à la main, il la suivit en direction de la balustrade de bois ajouré qui encerclait la terrasse. En modèle qui connaît sa place d'avance, elle y trouva tout naturellement la pose aguichante convenant le mieux à son audace. L'œil collé au viseur, il cadrait l'image de l'inconnu que le soleil matinal éclairait en mettant en relief toutes les nuances du visage. Puis, contre toute attente, elle ouvrit soudainement le manteau d'un geste ferme et la nudité étincelante de son corps apparut comme une épée que la main d'un enfant ou d'un fou se serait amusée à brandir sous le soleil. Bien avant qu'il ne pût appuyer sur l'obturateur de la caméra, un violent coup sur la nuque le fit s'effondrer sur place. C'est ici que commence le cauchemar. C'est ici que le personnage Jean-Marie Castel bascule dans le réel obscène. C'est ici qu'il va, à la suite de ce coup de lapin, il va être dépouillé de son passeport canadien, il va être dépouillé également de ses ressources, et il va devoir, nu comme un ver, reprendre son souffle de photographe et prouver qu'il est capable de renaître sans identité. Alors, tout le défi du roman, c'est de montrer au fait que on ne devient pas du jour au lendemain, en quelque sorte, argentin. Que cela, c'est l'espace donc d'un reflet qui s'inscrit. Et par reflet, évidemment, ça pose la question de l'identité dans notre pays, au Canada, de l'identité qu'on peut appeler franco-ontarienne, qu'on peut appeler franco-manitobaine, franco-albertaine, où j'ai travaillé il y a quelque temps cette question-là à l'Université de l'Alberta, bien sûr, de l'altérité québécoise. La question nationale pose toujours problème. Je suis loin de dire c'est une question dépassée, comme parfois certains le prétendent. Mais je crois qu'il faut aller vers ce problème, peut-être avec un autre regard aussi. En tout cas, permettre un regard qui ne serait pris exclusivement dans l'idéologique et dans l'exclusif partage anglophone versus francophone. Je crois que d'une certaine façon, la question nationale que se pose au Québec est une question que toutes les cultures connaissent. Observez même un pays comme la France, un pays que nous aimons tant, un pays qui parfois nous fait souffrir. Hein. Je peux dire qu'aujourd'hui, mon petit côté français, je pourrais dire j'ai mal à la France. Bien sûr que j'ai mal à la France. Lorsque je vois l'obscénité avec laquelle a été traitée les tueries des Juifs à Toulouse, des militaires à Montauban, l'exploitation éhontée qu'on en fait pour des raisons idéologiques, des raisons politiques. De cette façon, ce personnage qui est quand même français, qu'on le veuille ou non, c'est Mohamed Merah, il est français, je veux dire, il ne parlait que français. D'ailleurs, quand il est allé une fois en Algérie, il ne pouvait pas communiquer avec sa famille parce qu'il ne parlait pas arabe. Alors, on a voulu même le faire enterrer en Algérie, il n'est pas français, etc. Donc, observez le Front National, comment le Front National, Jean-Marie Le Pen d'abord, sa fille maintenant, exploite cette question donc de l'identité. Donc nous sommes tous pris avec ces problèmes-là. Peut-être que l'espace littéraire, d'une manière ou d'une autre, peut nous aider, ne serait-ce qu'à soulever la question, à essayer de voir ce problème avec des yeux moins, je dirais, moins aveuglés par le stéréotype. Être français, être espagnol, être argentin, je veux dire, l'Espagne, être espagnol, qu'est-ce que ça veut dire être espagnol ? Quand on connaît un petit peu l'Espagne, bon, c'est un pays que je connais quand même, je connais pas mal l'Espagne. Je veux dire, être espagnol, mais être espagnol, c'est quoi ? Si on est né andalou, on est espagnol ? Si on est né catalan, on est espagnol ? Si on est né basque, on est espagnol ? Voyez, c'est un gros problème, quand même. C'est un très gros problème. Même en France, un pays qui a été tellement centralisé, Napoléon est passé par là, mais même en France, il y a encore des gens qui parlent breton. Il y a encore des gens qui appartiennent à d'autres espaces culturels. Il n'y a pas qu'un espace, une intensité, même en France. Mon Dieu, moi j'ai fait aussi des études dans le Sud. Voyez-vous la différence qu'il peut y avoir entre un méridional, mettons, de Nîmes, ou un méridional de Perpignan, et un Parisien, un Parigot, c'est la différence qu'il peut y avoir parfois entre un Québécois et un Chinois. Enfin, j'exagère à peine. Donc, ce concept d'identité exige de notre part, et je crois que l'espace littéraire nous le permet, de poser quelques questions, ne serait-ce que pour le décoiffer un peu, pour le dépétrifier un petit peu. À partir de là, à partir donc d'une représentation possible, voire plausible. Alors, question concomitante, peut-on représenter la mer ? On m'a parfois dit, dans tes romans, il n'est jamais question de mer. Mais il n'est question que de ça. C'est-à-dire, je crois que l'absence est beaucoup plus forte qu'une présence. Et c'est toujours l'absence de cette figure au féminin qui, à bien des égards, illustre la dérive de beaucoup de mes personnages. Mais, une fois n'est pas coutume, mon dernier roman parle de la figure de la mère. Deuxième citation. J'espère, Pierre-Luc et Brigitte, ne pas trop parler parce que je veux un espace de discussion après. D'accord ? Donc, vous me le dites si je m'étale trop. C'était d'ailleurs l'un des rares souvenirs heureux qu'il conservait de ses parents. Il revoyait le chevalet de son père planté à côté de la fenêtre qui donnait sur le Pacifique. S'étalant à perte de vue, les dunes de sable avaient la couleur ocre des terrains de tennis, un brun que le rouge des oxydes de fer de cette partie de la côte péruvienne mettait à feu et à sang dans les marines que l'artiste vendait dans les marchés à l'époque. Dans les marines, ce type de toile improvisée qu'on fait presque à main levée, enfin, lorsqu'on est artiste peintre, les marines que l'artiste vendait dans les marchés à l'époque où il tirait le diable par la queue. Pour ne pas le déranger dans son travail, sa mère prenait Jean-Marie par la main pour traverser la route qui les séparait de la plage. Chiangkai, le village côtier, réservait ses maisons au bord de l'eau aux riches. Il devait se contenter d'une vue sans accès direct à la mer. Il prenait la main de sa mère en traversant la route pour gagner le sable. C'est en faisant bloc avec elle que les vagues venaient le chercher. Puis, il y avait le regard des hommes qui brûlait beaucoup plus que le soleil. Aussitôt le goudron derrière eux, sa mère ôtait ses sandales et il la voyait pieds nus à ses côtés, légère et rieuse, les longs cheveux noirs aux quatre vents, tandis que le soleil collait à sa jupe. Il n'ignorait pas que la chute de cette jupe en coton blanc sonnerait midi dans les reins des hommes qui prenaient une bière en attendant que Bobonne leur fasse signe de rentrer au bercail. À force de marcher pieds nus sur le sable, les hanches de sa mère avaient l'ondoiement des vendeuses de coquillages. L'alcool, lui, viendrait plus tard, comme un sel qui ravage tout sur son passage. Nora, maman, dis-moi pourquoi la mère lève son chapeau d'écume quand elle te voit apparaître pieds nus sur cette plage noire de regard noir. Maman, Nora, je suis sûre que tu as encore oublié la clé à la maison et qu'il nous faudra attendre le retour de papa pour qu'il nous ouvre la porte. Collectionneur et commerçant d'art précolombien, le père des Jean-Marie ratissait la côte en quête de poteries ayant appartenu aux anciennes cultures conquises par les Incas bien avant l'entrée en scène des Espagnols. Incapable de vivre de sa peinture, il quittait son chevalet pour suivre des guides autochtones payés à la pièce, censé connaître d'anciens tombeaux non encore profanés. Souvent, il lui fallait se contenter de pièces en mauvais état qu'une restauration lente et coûteuse rendait beaucoup moins rentable. De cet homme-là, l'enfant avait retenu le regard attentif porté aux objets façonnés par des mains anonymes. Le père passait des heures à contempler l'équilibre entre la souplesse de l'argile et la vivacité des couleurs que le passage du temps n'arrivait pas à effacer. Or, ce regard s'assombrissait le soir quand l'artiste rentrait bredouille, sentant le parfum bon marché des putes du marché indigène. Sa mère, bouche cousue, regardait ailleurs, soucieuse sans doute de préserver une harmonie sans laquelle la pauvreté n'aurait été que plus dure. Les infidélités de l'artiste étaient connues de tous. Aussi peut-être sa conscience aurait-elle été soulagée de la voir prendre elle aussi le même chemin. Mais elle s'y refusait, n'en déplaise aux mauvaises langues qui assuraient l'avoir vue certaines nuits d'été dans la voiture de l'avocat Bidal, propriétaire de l'hôtel Miramar, dont le restaurant Rosa del Mar étalait ses pétales entre les vagues. Elle aimait y chercher refuge lorsque la mauvaise humeur de l'artiste se transformait en cauchemar domestique. Du moins, c'était ce que le fils s'imaginait afin de garder